Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 29 avril. Il y a 10 jours, l'impressionnant incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris nous a tous émus. Ce n'était pas juste un bâtiment, une cathédrale qui brûlait, mais un point de repère de notre histoire, de notre univers, qui menaçait de disparaître sous nos yeux, en direct, par écran interposé. La sidération face à cette catastrophe a été mondiale. Et après cet incendie, et tout ce qu'il a pu provoquer comme sentiment, comme réaction, on n'écoute plus, on ne lit plus de la même manière les témoignages de celles et de ceux qui ont vu leur ville millénaire détruite par les bombes, réduite en cendres par la folie de la guerre. On pense à Palmyre, on pense à Alep aussi. Mon invité ce matin est la journaliste Cécile Aignon qui est allée recueillir les témoignages des exilés syriens d'Alep qui ont perdu à jamais leur ville, leur repère. Le fil de nos vies brisées, tel est le titre de son ouvrage édité chez Anne Carrière.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
C'était une des plus vieilles villes du monde, avec un sens universel, une ville prospère, riche par son histoire, choyée par sa géographie, qui a disparu sous les bombardements, qui a disparu sous la guerre. On ne connaîtra plus jamais cette grande cité marchande, cosmopolite. On ne connaîtra plus jamais cette ancienne cité des hommes avec son architecture médiévale et son patrimoine traditionnel classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, comme on dit, même si cette formule ne protège en rien de la folie des hommes en guerre. On ne connaîtra plus jamais Alep. Et d'ailleurs, vous-même, vous n'êtes jamais allé à Alep.
C'est vrai, c'est un paradoxe. Après avoir parcouru cette région vraiment... dans tous ces coins les plus reculés, on peut dire.
Puisque vous travaillez au Monde et que vous êtes chargé de cette région, le Moyen-Orient, Cécile
Voilà, Lignon. Et pendant longtemps, j'ai été d'abord reporter et puis ensuite correspondante
à Beyrouth.
Et du coup, je voyageais beaucoup tout autour, y compris en Syrie, et puis ensuite plus du tout en Syrie, parce que comme beaucoup de journalistes, je n'avais plus de visa pour y aller. Et donc, je ne suis jamais allée à Alep et malheureusement, je ne la verrai jamais. Et le parallèle que vous faites avec la cathédrale Notre-Dame me parle beaucoup et je trouve que le parallèle est très bien choisi et bouleversant parce que si cette cathédrale était un peu notre point zéro, c'était là où d'où partaient tous les kilométrages de la France entière, eh bien Alep, c'était un peu le point zéro de notre histoire, quelque chose qui appartient à notre patrimoine, comme vous l'avez dit, et dont tous nos ancêtres autour de la Méditerranée pouvaient s'y rattacher, peut-être dans des lignées très anciennes. Et c'est donc quelque chose qui aurait dû nous émouvoir tout autant quand cette destruction a eu lieu pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, jusqu'à l'hiver 2016. Où elle a cessé d'exister.
Parce qu'aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Un champ de ruines ?
La ville a été divisée en deux.
Déjà pendant la guerre, et vous le racontez très bien dans le fil de nos vies brisées.
Pendant la guerre, qui est selon une division qui suivait à peu près le fleuve, on va dire le cours du fleuve qu'il a traversé, qui s'appelle le fleuve Couek. La partie est, c'est ce qui était en fait la vieille ville. C'est là où il y avait tous les anciens quartiers, la partie que les étrangers, que les touristes venaient visiter, avec les très anciens souks, les très vieilles mosquées.
La mosquée des Omeyyades.
La mosquée des Omeyyades, les très anciens hammams, voilà, tout un tas d'édifices religieux ou non religieux d'ailleurs, parfois qui remontaient aussi loin que l'Antiquité, une Antiquité d'ailleurs que nous n'avons pas connue, parce que c'était l'époque... où ici en Europe on était plutôt dans des grottes quand eux construisaient déjà ce qui pouvait ressembler, on peut dire architecturalement à des cathédrales. Et c'est cette partie-là, c'est cette partie ancienne qui s'est rebellée. Donc aujourd'hui subsiste l'Ouest. C'est très étonnant d'ailleurs. Ça se verrait même sur des images satellites, quasiment à l'œil nu comme ça, à quel point l'Est, il n'en reste plus que des ruines. Tandis que l'Ouest a été touché, mais relativement beaucoup moins. Mais là, ce sont les quartiers nouveaux. Ce sont Ce sont des partis qui se sont développés, on va dire...
Sous le règne des Assad.
Sous le règne des Assad et un petit peu avant, pendant le mandat français.
Alors vous avez décidé de faire raconter cette ville disparue à jamais, détruite par la guerre, par ceux qui l'ont quittée, par ceux qui n'avaient pas d'autre choix que de la quitter, s'ils voulaient survivre à cette folie. Ils sont pour la plupart jeunes, il y a Abdelkader qui a 23 ans, Karam 25 ans, Sami 31 ans, encore plus jeune Hassan qui a 17 ans, il y a Akil, il y a Zakaria, il y a Ryan. Ils racontent leur enfance, ils racontent leur adolescence, ils racontent ces moments aussi où ils rêvaient de liberté, où ils pensaient qu'ils allaient pouvoir se libérer de la dictature du régime. Ils vous racontent à vous, Cécile Aignan, journaliste du Monde, leur histoire, mais aussi leur géographie.
Ils ne racontent pas ça à la journaliste parce que tous ces gens-là ont été très déçus par les médias, avec même une défiance envers eux, avec l'impression d'avoir crié, claironné, aidé les journalistes à raconter l'histoire sans aucun,
pour rien,
ouais. sans aucun effet. Et donc, c'est vraiment avec le projet d'un livre, en leur disant que mon métier était journaliste, mais en disant que ce serait une œuvre littéraire et non pas une œuvre journalistique, qu'on allait essayer, avec leurs souvenirs, de mettre en place. Et du coup, de laisser beaucoup de place ainsi à la mémoire, aux émotions, finalement à des choses qui ne sont pas complètement journalistiques. Et il était très important, en fait, au départ, je commençais souvent par cette phrase-là, en leur disant « Je n'y suis jamais allée, parle-moi de chez toi, parle-moi de ta maison, parle-moi de ta rue. » Et c'est eux qui, naturellement, en venaient à la recette de leur grand-mère, à la chanson que fredonnait le père, à des odeurs du quartier. Et donc...
On voit bien se dessiner la géographie de la ville à travers leurs témoignages. On voit bien aussi ce qu'ils ont vécu avant la guerre, ces moments exaltants pendant les premières semaines de la révolte, et puis au fur et à mesure, la déception, le désarroi, le chaos.
Oui, Abdelkader le compare à un orgasme, c'est-à-dire que malgré toute la peur qu'il avait quand il descendait dans la ruelle pour chanter au moment où ces manifestations étaient pacifiques et où elles étaient déjà réprimées dans la violence, dans une très grande violence. Et c'est ça qui est poignant avec eux, c'est qu'ils avaient la vigueur de la jeunesse et ces idéaux qui sont sans doute réservés à cet âge-là, qui leur faisaient penser que eux pourraient, contrairement à leur père ou à leur grand-père, changer leur monde. Et ce qui est tragique, c'est de voir aussi à quel point leur innocence, leur jeunesse s'arrête de façon aussi brutale finalement par les combats et puis par les bombardements et la mort qui s'abat un peu, et les destructions qui s'abattent tout autour d'eux.
Oui, parce que leurs parents avaient déjà connu des bombardements du régime. À l'époque, on parlait de frères musulmans que le régime d'Assad essayait de contenir ou de punir. Mais ce qu'ils vous disent à vous, Cécile Aignan, c'est qu'à une époque où tout se sait grâce à Internet, grâce aux images qui peuvent faire le tour de la planète, ils pensaient réellement que cette fois-ci, ils allaient obtenir la liberté.
C'est vraiment des jeunes de notre époque. C'est vraiment des jeunes comme ceux que... C'est les jeunes comme les jeunes de partout ailleurs, en Europe ou en Orient ou quoi. Ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont dans la globalisation, dans l'info minute par minute. Et ils sont complètement fascinés par ces possibilités que leur donnent ces nouvelles technologies pour communiquer. Souvent avec un ailleurs que parfois ils fantasment d'ailleurs, sur ce que pourrait être l'Occident, ce que pourrait être leurs valeurs de liberté, de démocratie. En tout cas, pour certains d'entre eux, c'est bien ce qu'ils disent. Et ils ont l'impression que cette fois-ci, et ils vont prendre des risques insensés d'ailleurs pour aller jusqu'au bout de leurs convictions, c'est-à-dire nous, on sera là pour montrer les choses et personne n'osera faire... le régime n'osera pas nous faire ce qu'ils ont fait à nos pères ou à nos grands-pères, parce que nous serons là avec nos téléphones portables, avec nos caméras jetables, avec nos yeux, avec nos appareils photo, avec nos stylos, avec tout ce qu'ils ont sous la main.
Et le monde sera avec nous.
Et le monde sera avec nous et nous défendra, parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'appelle la justice internationale, il y a quelque chose qui s'appelle l'ONU, il y a quelque chose et ils y vont alors vraiment avec un enthousiasme fantasme, encore une fois, qui, à mon avis, correspond à cette jeunesse. Et c'est pour ça que je le trouve si beau et presque romantique, tragique aussi, en l'occurrence, qu'ils y vont quasiment pieds nus pour réclamer le droit à du changement.
Le fil de nos vies brisées, c'est le titre donc de cet ouvrage où vous recueillez ces témoignages. Ça vous a pris combien de temps, Cécile Aignon, et comment vous avez fait ce choix de ces Syriens, de ces Alépins en exil?
Si vous voulez, ça correspond déjà un petit peu à la démographie des quartiers de l'Est, c'est-à-dire une population qui est majoritairement très jeune. Alors leur témoignage prend plus d'ampleur peut-être au moment de la guerre, parce que c'est là où elles se révèlent avec toute leur puissance. Elles sont moins présentes dans les manifestations. Les mères sont là, les grands-mères sont là. Et donc en effet, c'était essayer aussi de voir différents niveaux. On a tellement essayé de décrypter cette guerre avec en prenant un seul angle. Par exemple, ce serait des problèmes économiques, ce serait la sécheresse, ce serait des problèmes générationnels, ce serait et évidemment la fatalité géopolitique. Donc le but était de prendre des voix qui allaient être forcément un petit peu dissonantes, mais qui allaient nous brosser un tableau qui serait juste, parce que justement les notes ne s'accordent pas totalement, mais que l'ensemble allait former une mélodie ou un tapis, comme je l'écris, parce que ce sont des fils qui s'entremêlent et qui s'entrelacent pour donner une image de ce qu'était leur ville à eux. ولا شكوى وعتب ولا عتبا وشوق ولا لقيا وصبر ولا عقبا وقلبك ما أقسى وقلبي ما أصبى
وقلبك ما أقسى وقلبي ما أصفى
qui ont tout perdu, leur ville, leur quartier, et puis aussi leur pays, avec les Syriens d'Alep, ou du moins d'un quartier d'Alep, que vous avez rencontré, Cécile Aignon, en exil, pour écrire cet ouvrage de témoignage, Le fil de nos vies brisées. Et les autres Syriens, ceux qui étaient de l'autre côté de cette frontière idéologique qui a coupé la ville en deux?
Eh bien, ça reste un livre à écrire. J'ai pensé au départ aller les voir, sachant que ça changeait beaucoup le projet parce que
d'un côté il y a des pro-régimes, de l'autre les rebelles qui ont tout perdu.
Bon, alors c'est toujours un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que parfois les familles ont été séparées par cette ligne, et il y a même du côté ouest qui aujourd'hui qui n'a jamais quitté en fait le contrôle du régime, des gens qui ne soutenaient pas mais qui n'étaient pas forcément politisés et qui en fait se sont tus et qui continuent à se taire. La situation à l'ouest et celle qui prévalait en Syrie en général avant 2011, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où les gens sont à même de discuter librement. En tout cas, c'est ce que m'ont dit certains, c'est ce que j'ai ressenti parfois. Je pense que c'est une autre histoire à écrire et celle qui m'a intéressée, c'était celle de ceux qui avaient décidé de tout miser pour changer.
La bataille d'Alep se poursuit, l'enjeu est stratégique. Pour la première fois depuis des mois, eh bien, les forces de Bachar al-Assad ont gagné du terrain, appuyées par l'aviation russe. Alep et les rebelles anti-djihadistes sont aujourd'hui assiégés. La route d'approvisionnement avec la Turquie a été coupée. 30 000 Syriens, à l'heure où je vous parle, même plus de 30 000 Syriens, sont massés à la frontière turque, une frontière qui est restée fermée ce mardi. Et les Nations Unies, eh bien, demandent aujourd'hui à Ankara eh bien, d'ouvrir cette frontière. Assiste-t-on à un tournant majeur dans cette guerre? Si Alep tombe aux mains du régime de Bachar el-Assad...
C'était le 10 février 2016, Cécile Aignon, vous vous souvenez bien de date-là. Donc la ville qui tombe aux mains des forces de Bachar el-Assad, c'est une ville en ruine.
C'est une ville qui est tellement brisée, qui est tellement détruite que leurs habitants n'arrivent même plus à reconnaître le tracé des routes qu'ils prenaient tous les jours. Ça veut dire qu'ils ne savent plus parfois retrouver le chemin de leur maison. C'est une ville qui est tellement détruite qu'on peut sortir pour essayer d'aller chercher à manger, un peu de riz, une plante qui pousse quelque part, et revenir chez soi 5 minutes plus tard et découvrir que sa maison et ses habitants, la famille qui était là, ont disparu dans ce laps de temps.
Comment ces gens-là, et plus précisément ces jeunes, puisque vous avez surtout interrogé ces jeunes d'Alep, Cécile Aignon, comment sont-ils passés de cette phase euphorique, c'est le début de la révolution, alors que justement les habitants d'Alep vont se soulever bien après le reste du pays, près d'un an après? Comment ils vont traverser toutes les épreuves, c'est-à-dire d'abord la résistance et puis l'arrivée des étrangers? Dans un des témoignages, il y a quelqu'un qui dit « Oh ben c'est super, il y a un Jordanien qui vient nous aider pour la liberté ». En fin de compte, on se rend compte que c'est un terrain qui va être occupé par des islamistes. Alors d'abord les islamistes d'Al-Qaïda ou d'Al-Nusra, et puis ensuite par l'État islamique. Comment ils vont vivre tous ces événements, tous ces chapitres aussi rapidement?
C'est vrai qu'il y a quasiment une descente aux enfers avec une rapidité comme ça qui est stupéfiante. Et à chaque fois, en fait, à chacun des épisodes là que vous évoquez, et ils se sentent dépossédés, ils se sentent volés. Non seulement parce que leurs idéaux sont trahis et qu'ils voient à chaque fois qu'il va être de plus en plus compliqué de continuer selon leurs envies à eux, mais parce qu'en plus l'attention, et notamment ça c'est très fort pour les islamistes et en particulier ceux de Daesh, c'est que l'attention des médias internationaux, au lieu de montrer ce que eux faisaient leur combat, va se fixer, si vous voulez, sur cette espèce de verrue qui est les État islamique, qui vont quand même dégommer en une semaine des quartiers d'Alep, c'est dire que eux pensaient qu'ils étaient quand même plus puissants et qu'ils avaient évidemment une légitimité historique, évidemment une légitimité géographique, mais qu'en plus la situation n'était pas celle que décrivaient avec effroi les journalistes et les médias occidentaux. Et donc tout ça va être pour eux vécu comme une sorte de trahison, avec parfois des trahisons bien réelles, parce qu'il y a aussi tout ce qui fait la guerre au quotidien, qui sont les rapports entre les êtres humains au sein des familles, au sein d'une fratrie, au sein d'un groupe d'amis, où un jeune homme peut se retrouver en prison, dénoncé par son meilleur ami d'enfance, par exemple.
Ouais. Vous avez ce témoignage où quelqu'un qui va en prison alors que c'est le frère qu'on recherchait. Enfin, il y a toutes sortes de malentendus dans ces années de guerre que vont vivre ces Syriens que vous interviewez, Cécile Aignon. Et l'idée de ce livre, ce qui le rend captivant, c'est que vous qui êtes journaliste, spécialiste de cette région, vous l'avez d'ailleurs dit en début d'entretien, quand vous allez les voir pour recueillir leurs témoignages, vous n'êtes plus journaliste.
Non.
Vous êtes comme eux. Vous êtes tellement comme eux que vous parlez aussi de vous-même. et de tout ce que vous avez enduré, subi pendant cette période-là, de ce rendez-vous raté avec Alep, parce que vous étiez prête à passer clandestinement la frontière, mais le journal vous appelle parce qu'il se passe quelque chose en Libye, la guerre vient d'éclater en Libye. Vous racontez aussi vos problèmes de santé dans ce livre, et vous prenez la parole exactement quand eux la prennent dans ce livre, avec, j'allais dire, le même espace.
En donnant pareil mon âge, en essayant de d'aller dans ce qui est le moins facile, c'est-à-dire dans ce qui est de l'ordre de l'émotion et pas seulement du factuel, en gardant aussi à l'esprit que la mémoire elle peut être trompeuse, et en gardant à l'esprit que ces confidences que m'ont faites ces jeunes n'étaient possibles que dans un temps long et que dans celui de la confiance, et que pour cela il fallait absolument que nous soyons à égalité, ce que je croyais profondément, mais ce dont ils avaient besoin d'être convaincus, on va dire, et que c'était un peu un pacte de départ, c'est-à-dire avec cette profonde conviction que cette histoire a une portée universelle. C'est Alep, ça aurait pu être ailleurs en réalité, ça pourrait être beaucoup plus proche que nous, de nous. En réalité, je pense que c'était déjà tellement proche de nous, et qu'on a parfois le sentiment qu'en Orient, les choses sont très compliquées, et que du coup, elles sont peut-être incompréhensibles. Dans ces cas-là, il faut repartir du postulat que nous sommes absolument tous les mêmes, c'est-à-dire des êtres humains dans leur nudité première, j'ai envie de dire.
Avec leurs espoirs, avec leurs tragédies, ils vous racontent le quotidien, ils vous racontent l'espoir. Et puis il y a vous mettez à nu, c'est rare qu'une journaliste puisse passer de statut d'observatrice, de celle qui rapporte les faits d'une manière très très factuelle et le plus honnêtement possible. Quel est le rapport que vous entretenez avec cette région? Parce que ce n'est pas par hasard que vous êtes retrouvée spécialiste de cette région pour Le Monde, Cécile Aignon.
C'était sans doute peut-être écrit, même si je crois pas forcément aux forces de la destinée, mais depuis toujours c'était une région qui me fascinait. C'est une région aussi auquel on m'associait comme ça naturellement, c'est-à-dire pour des raisons génétiques inconnues, les gens pensaient naturellement que j'étais probablement arabe, orientale, en tout cas de ces
libanaise,
pays-là.
Oui.
Libanaise.
Ce qui n'est
pas le cas du tout. Et donc j'avais une vraie fascination, alors quand j'étais jeune, avec tout un tas d'idées reçues et on va dire peut-être de clichés sur ce qu'était l'Orient, on va dire quelque chose qui ressemble à l'orientalisme, etc. Et puis quand très tôt j'y suis allée, parce que j'apprenais l'arabe et que j'avais des stages de langue au Caire, je découvrais quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui était un peu figé dans mes livres d'histoire ou les contes qui avaient pu m'émerveiller quand j'étais plus jeune, où je constatais une énergie qui était tellement débordante qu'elle m'enchantait, et puis des situations politiques qui étaient tellement accablante qu'elle me révoltait. Et le problème, c'est que quand vous êtes très longtemps dans ces régions-là, quand vous êtes discuté avec ces gens, etc., au bout d'un moment, ils ne sont plus les témoins ou les gens que vous interrogez pour un article. Ils deviennent vos amis, ils deviennent vos proches, ils deviennent votre famille quelque part. Et qu'ensuite, qu'ensuite vous êtes vous-même englouti par cette histoire et qu'elle finit par vous toucher dans votre chair. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Mais l'histoire elle continue, et tous ces gens là ont en commun une force vitale extraordinaire. Ils ne sont plus dans la survie, qui est la bataille dans le quotidien, dans l'immédiat, qui est justement de ne pas mourir. Ils sont déjà dans un avenir et ils continuent, que ça soit dans des associations, dans des groupes qui continuent à militer pour une justice, etc. Tous ont conservé cette vitalité et certains continuent de croire qu'ils pourront agir. Donc il faut souhaiter que ce sera non pas à des vieux régimes, mais à une jeunesse pleine d'énergie, qu'il appartiendra de ne plus pleurer les ruines, mais de continuer à croire en l'avenir et à ce qu'ils bâtiront avec leurs enfants.
Le fil de nos vies brisées, c'est édité chez Anne Carrière. Merci d'être venue nous en parler, Cécile Aignon.
Merci à vous.
Et on termine avec la grande voix d'Alep, parce que Alep demeure dans nos cœurs, dans notre mémoire encore, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, cette grande voix. C'est Adib d'ailleurs que vous connaissez bien sûr.
Magnifique.
لولا غرامي لما ذرفت الأدمع لولا غرامي لما ذرفت الأدمع ولما وجدت الدمع سهلا ضيعا يا رب يا رب إني بالجمال مولع ما ذنب قلب بالجمال تولع.
Vous pouvez réécouter le Réveil culturel avec Cécile Aignon, passant par franceculture.fr, entre autres. Cette émission a été préparée avec Sophie Catherine Gallet et Maëlle Ray. À la technique ce matin, Claire Levasseur. Le Réveil culturel est réalisé par Vincent Abouchard. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture.
أنت الذي صغت الغواني فتنة وكسوتهن تدللا وتدلعا